102.1.
O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá a todos, il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Temstad 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Clarisse et Liliana sont de retour, comment ça va?
Ça va super et vous?
Pareil, je suis trop bien.
Liliana, pour que vous sachiez, c'est la première fois qu'elle est toute seule en régie, donc s'il y a des erreurs, c'est à elle qu'il faut taper sur les doigts. Non, je rigole.
Merci Julie.
Elle va gérer, on va être très indulgents et ne sois pas stressée, tu gères comme une chef. Laura arrive, elle est dans les bouchons. Franchement.
Pour une fois que c'est pas moi.
On a l'habitude maintenant dans la zone. Et aujourd'hui, on a des spectatrices de Cap Magellan, notamment Jenny qui est avec nous, administratrice de Cap. Comment ça va?
Oh bah, total. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, Julie. Ça va très bien. Je suis heureuse de découvrir ton monde du samedi.
On est content que tu sois là, mais c'est pas toi l'invité du jour. Et oui, au programme aujourd'hui, culture, sport, musique et humour, puisque nous recevons le fameux José Cruz. Comment ça va, José?
Bah, ça va super bien. Un tout petit peu fatigué du voyage d'hier, mais je suis super content d'être là. Et c'est un bonheur, un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Hola, boa tarde a todos os ouvintes.
Nous, on est hyper contentes de te recevoir, comme d'habitude. Tu es le bienvenu. Vraiment, tu es à la maison ici, sur Temstad de Chponton, finalement. Ça doit faire quoi, la troisième ou quatrième fois que tu viens?
En fait, ouais, c'est la troisième. Et en fait, du coup, avec Temstad, le spectacle a grandi avec Temstad, en fait.
Ouais,
il est né et il a grandi avec Temstad, en fait.
Vraiment. Et du coup, hier soir, tu étais à Bordeaux, à la Fémina.
Oh, théâtre Fémina.
Pour le présenter. Félicitations.
Merci.
Vraiment pour tout ce parcours. Mais on va en parler un peu plus tout à l'heure. Restez avec nous pour en savoir plus. Du coup, ce sera au moment de l'interview à partir de 14h45. Et en attendant, je vous laisse avec une musique sortie hier. Elle fait partie d'un EP qui s'appelle Impulsus de Nunik. C'est un artiste qui est déjà passé sur Temstad de Chponton et qu'on adore. On s'écoute Flesh, mais n'hésitez pas à écouter l'EP en entier après Temstad de Chponton.
Não sais do meu brain. Cuidado, viciado. Se és perigo, eu não sei. Tipo uma flecha direta no peito. Tu fazes-me desejar. Contigo, eu tô perdido. Tenho de me acalmar. Porque olhar para ti deixa-me tão nervoso. Eu vou fazer o possível para eu ser teu dono. Ligo-te para que possamos passar uma beca juntos para poder falar. Fui à rua, fuck, vi essa mulata. Meus olhos não acreditaram, amei o teu drop. Seja onde for, no meu pensamento tu latas. Que fizeste, não sou igual. Tempo voa, só para o vento. Louco por te ter por perto. Tu já não sais do meu brain. Cuidado, viciado. Se és perigo, eu não sei. Tipo uma flecha direta no peito. Tu fazes-me desejar. Contigo, eu tô perdido. Tenho de me acalmar. Porque olhar para ti deixa-me tão nervoso. Olho para ti e sinto o amor. 100% nota-se bem. Eu tenho muito para te dar. Nota 100, tenho também. Juro que essa dama fez-me voodoo. Sonho contigo até no escuro. Meus amigos até já me chamam de burro. Não me seguro, venho que vier. Contigo tudo e ando. Meu amor é puro. Tu és o meu mundo. Sem ti tão no fundo. Tu já não sais do meu brain. Cuidado, viciado. Se és perigo, eu não sei. Tipo uma flecha direta no peito. Tu fazes-me contigo, eu tô perdido. Tenho de me acalmar. Porque olhar para ti deixa-me tão nervoso.
C'est le moment de l'événement de la semaine et cette semaine, c'est la semaine de l'art à Paris. C'est l'un des temps forts de l'automne qui fait vibrer la capitale au rythme des expositions, foires et rencontres. Est-ce que vous en aviez entendu parler, exposition par exemple sur le sujet?
J'ai passé des infos, ouais, sur les réseaux sociaux. Et mais chaque année maintenant, la communauté portugaise, lusophone, elle est représentée.
Exactement, et je vais vous en parler tout de suite. Alors d'abord, parmi les rendez-vous incontournables, il y a Art Basel Paris. C'est une des foires d'art contemporain qui rassemble les plus grandes galeries internationales. Cette année, il y avait 206 galeries qui sont, ils sont encore présentes, puisque c'est encore aujourd'hui, et qui sont ici de 41 pays et territoires différents, dont une galerie portugaise, la Galerie Madragoa à Lisbonne, et plusieurs galeries brésiliennes aussi d'ailleurs, qui mettent en lumière la richesse de la scène artistique lusophone. Liana, on y était hier, qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi, j'adore ce milieu, puisque c'est le milieu dans lequel j'aimerais faire partie plus tard, après mes études. Mais j'ai trouvé ça super incroyable d'avoir eu la chance que cette galerie portugaise participe, parce que c'est très très rare. Ouais. Et puis c'était la seule de la foire.
Ouais, c'est la seule. J'espère qu'il y en aura d'autres chaînes. Et pour rester du coup sur la lusophonie et le Portugal, il y a une exposition qui a lieu, une exposition exceptionnelle qui s'appelle Thé dansant, et c'est de Joana Vaz Concerge avec Bernardo. C'est de la porcelaine, vraiment c'est super beau. C'est présenté toutes les semaines à la maison de la maison de vente aux enchères Arcurial, et elle est visitable encore aujourd'hui jusqu'à 18h. Alors allez-y, c'est gratuit et c'est vraiment beau. D'ailleurs, c'est un lieu assez original pour une expo d'art contemporain, puisqu'il n'y a pas d'objectif de vente. Et avec cette exposition, l'artiste portugaise réinvente la porcelaine de Limoges à travers d'immenses théières qui sont habillées de dentelles crochetées mêlant tradition, audace et poésie contemporaine. Est-ce que vous l'avez vu passer? Tu l'as peut-être vu sur les réseaux, Laura?
Moi, j'ai vu sur les réseaux, et puis c'est vraiment hyper beau. Et en ce moment, elle fait beaucoup de choses d'ailleurs, parce qu'hier, elle a fait son premier défilé de mode. Je ne sais pas si vous avez vu. Tout ce qu'elle fait, c'est vraiment incroyable.
Ouais, c'est vraiment magnifique. Et puis, écoutez, j'espère qu'un jour, elle pourra venir sur Themestade.
Espérons, ce serait bien.
On aimerait beaucoup la recevoir. Oui. Si elle nous écoute, Joanne, n'hésite pas à venir. Donc voilà, cette semaine, vraiment, l'événement, c'est la semaine de l'art. Il est encore temps d'aller voir toutes ces expositions et d'aller voir tout cet art contemporain qu'on a la chance de voir à Paris, et notamment Joanne Vaz Concerge. Donc n'hésitez pas à y aller et identifiez-nous sur vos stories. Et d'ici 5 minutes, je vous parle de littérature dans Ushkadenj dès Julie. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le dernier single de Blue Way, ça s'appelle Voir.
Mundo era cinzento, eu pintei a história. O corpo é dela, marca nas costas. Há dificuldades na vida. Como é que eu nunca vou sorrir agora? Perna fraqueja, mesmo assim não para. Lema do povo é cumprir a missão. Eu deixei mesmo essa poeira na cara, pra eles nunca esquecerem que eu vim do chão. E esse mundo é lindo. Só fortaleceu. Jura, a vitória ficou com um sabor mais doce desde que eu partilhei com os meus. E é tão bom voar. Essa turbulência, esse nome, equilíbrio. É tão bom voar. Eu guardei no peito tudo que eu não tive. É tão bom voar. Tô por cá. É tão bom voar. Encontrar razão para tudo, mas aceitar a incerteza fez-me sentir livre. É com amanhã a página que ainda não virou, e o dia de ontem é que dá beleza ao meu livro. Então, brother, eu corri até quando não dava mais. Ultrapassei a vontade de ficar pelo caminho. E quando esbarrei no limite e vi o desvanecer, é que eu vi que o meu limite sou eu mesmo que o defino. Então, brother, a gente volta, a gente soa, a gente luta, a gente fica, a gente volta, mas a gente não para. Metade do tempo do meu povo foi chapadas da vida, outra metade somos nós que estamos a dar na cara. Então, hoje a gente aprenda por mais. Maldade fica para trás, bondade eu partilho com o meu povo. A cota disso, Deus é grande e tem tamanho, tem para todos. É tão bom voar. Essa turbulência, esse nome, equilíbrio. É tão bom voar. Eu guardo no peito tudo que eu não tive. É tão bom voar. Tô por cá. É tão bom voar. Para recomeçar, cedo com os meus chão para saborear. Não é preciso sair do chão para voar. E é tão bom voar. Essa turbulência, esse nome, equilíbrio. É tão bom voar.
Cultura, com os cadernos da Julie.
Continua na Rádio Alfa para o Tempo Estado 2.1 e chegou mesmo a tempo para os cadernos da Julie. Eu hoje quero falar de uma autora da qual já falei duas vezes nos cadernos da Julie e que adoro. Uma autora que passou a ser uma amiga para mim, uma pessoa que sempre me apoia e a qual agradeço imenso por isso. Grandes beijinhos para ela. Estou, claro, a falar da Alexandra Vieira. Conheces José, não é?
Oui, oui, oui. C'est quelqu'un très bien et qui aime aussi beaucoup la radio,
ouais,
n'est-ce pas? Et bah, qui est une merveilleuse auteure, autrice.
Ouais.
Autrice.
Les deux se disent, mais Sandra est auteure et journaliste de radio. Publicou deux romans na editora Plume de Marmotte, Julia Florista et Comme dit la chanson. Só com estes dois títulos pode perceber que Alexandra adora a música. Ela também canta, aliás, e a música é uma parte importante da sua obra em geral. Mas pronto, já lhe apresentei estes dois romances que eu te falo hoje da Alexandra é porque voltou a publicar. Desta vez publicou dois livros que não são romances, mas sim coleções de curtas novelas. Não sei vocês, mas acho que fazia mesmo muito tempo que não lia novelas, se calhar desde o secundário com o Orla de Maupassant.
Ou La Parure.
Fazia mesmo muito tempo, mas essas novelas não são complicadas, nem por isso, não tem nada a ver com Maupassant, mesmo se adoro Maupassant. São bastante fáceis de ler e bastante simpáticas de ler também. Em 2024, então, publicou Jungle Secrète e Piano Argenteuil e Outre Nouvelle. Há vários aspectos que achei muito interessantes com esses dois livros. Primeiro, os dois foram publicados em autoedição. Se acho isso interessante, é porque os romances da Alexandra foram publicados por uma editora. Então, por que autoeditar? Obviamente fiz essa pergunta à Alexandra. E ela explicou-me que é muito mais complicado hoje de publicar uma coleção de novelas por editora. Em autoedição foi muito mais simples, fez-se rapidamente na internet. E também, vamos ser sinceros, permite também ganhar um pouco mais de dinheiro do que quando fazemos sozinhos. E segundo aspecto, são novelas bastante curtas, às vezes só uma ou duas páginas. Achei interessante porque, ao mesmo tempo que chega bastante para perceber a história e entrar nela, permite também deixar ao leitor, o leitor quase sem fim. Sinceramente, já me aconteceu adormecer e sonhar o final da história, imaginar no meu sonho o final da história de uma das novelas da Alexandra. E assim permite trabalhar o imaginário do leitor e pôr as nossas próprias experiências e os nossos sentimentos na história. Adoro esse aspecto. Terceiro, são todas histórias de mulheres. Em Jungle Secrète são histórias mais sensuais, onde homens e mulheres contam os seus desejos íntimos, mas as mulheres têm quase sempre o controle sobre os homens, o que adoro. E em Piano Argenteuil e Outre Révélation, Alexandra faz-nos entrar em histórias de mulheres à procura da sua luz. Por exemplo, uma criança estigmatizada com o sonho de tocar piano, uma mulher de 50 anos que descobre finalmente o seu valor, uma pessoa idosa que redescobre o seu desejo sensual, etc. Histórias de ficção, mas muito realistas e que poderiam acontecer a qualquer rapariga ou mulher, na verdade. E como sempre nos cadernos da Julie, pedi um áudio à Alexandra. Desta vez quis saber porque é tão importante para ela falar de mulheres e pô-las em honras nas suas obras e, sobretudo, nessas coleções de novelas.
Bonjour Julie, bonjour à toute l'équipe de Tempestade et bonjour aux auditeurs de Radio Alpha. Merci de mettre en avant mes dernières publications. Ce sont des nouvelles, effectivement, des récits courts qui, j'espère, vous entraîneront dans l'univers de mes héroïnes. Alors, c'est vrai, je parle beaucoup de femmes et là, j'ai voulu vraiment les mettre à l'honneur dans Jungle Secrète, plus à travers le désir sensuel et puis dans Piano Argenteuil et autres révélations à travers des femmes de tous âges, puisqu'on part de la petite fille jusqu'à la femme d'âge mûr. Et je trouve que la psychologie féminine est vraiment un terrain très intéressant à explorer. Non pas que vous, messieurs, vous ne soyez pas dignes d'intérêt, loin de là, mais il y a peut-être des subtilités que l'on ne trouve que chez les femmes. Alors, je ne vais pas ouvrir le débat. En tout cas, moi, ces subtilités-là me touchent et j'avais envie de les partager et de m'aventurer sur d'autres terrains, parce que dans mes précédents romans, je parlais de femmes déjà adultes Et là, j'ai eu envie d'aller rechercher peut-être ce qu'éprouvait une petite fille, une jeune fille, et puis des femmes dont on n'a pas beaucoup l'occasion d'entendre parler. Ce sont les femmes que l'on dit d'âge mûr, qui ont déjà de l'expérience, l'expérience de vie, qui ont vécu des blessures, des joies, mais aussi qui ont encore peut-être des doutes, des questions. Et c'est ça que j'ai voulu explorer. J'espère que ça vous plaira. Beijinhos a todos.
Obrigada, Alexandra. Grandes beijinhos.
Grandes beijinhos.
Já tinhas ouvido falar dessas coleções de novelas ou ainda não?
Ainda não.
Então tens de comprar.
Claro,
tens
claro, 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 porque já tenho os livros precedentes
no meu estúdio.
Sim, sim, sim. Já vi a ocasião, tive a oportunidade também de entrevistar quando eu tinha o meu programa. E sim, é uma pessoa incrível.
É verdade.
Avec beaucoup de talent.
É verdade. Nós adoramos-te, Alexandra, está bem? Grandes beijinhos. E vocês têm que ler os seus livros, juro que são muito bons, muito bem escritos e acessíveis a todos, mesmo as pessoas que não têm hábito de ler. Mas resumimos então, Jungle Secret e Piano à Argenteuil e outra novela, coleções de novelas de Alexandra Vieira. Se quiser descobrir esses livros, os romances de Alexandra ou o trabalho jornalístico dela, aconselho ir dar uma vista de olhos no seu site, apostrofe com PH, tirevieira.com. E claro, tenho uma boa notícia: vai poder ganhar um exemplar de cada num sorteio que estará disponível nas nossas redes sociais desde segunda-feira. Quem quer ler agora estas novelas?
Todos.
Nós.
Pronto, perfeito. Então, toda a gente vai participar no sorteio. E fica connosco daqui a 5 minutos. Viajamos com a Clarice em Destino. E agora vamos ouvir uma música saída ontem, Noutra Vida, de Mariana Pereira.
Tentamos vezes sem conta e só nos perdemos. Pegaste no parque, eu peguei nos lemos, ao mar nos fizemos. Fica tudo gravado na mente, guardado tudo o que vivemos. Escrever é complicado com o lápis gás nos mesmos cadernos. Vivo com medo de onde vais. Ligo e o número não dá mais. Sinto, não estás comigo ainda atrás. Na nossa rotina alguém ainda nos atrai. Vivo com medo de onde vais. Ligo e o número não dá mais. Sinto, não estás comigo ainda atrás. Talvez noutra vida ou destino ainda nos encontre. Disseram, mas eu nunca esperava. Corremos tanto para a meta errada. O outro lado da moeda sei o cara. Um luto no mesmo sítio sem um porquê. Um amor que é infinito mas não se vê. Romance que só funciona na TV. Vivo com medo de onde vais. Ligo e o número não dá mais. Sinto, não estás comigo ainda atrás. Mas na nossa rotina alguém ainda nos atrai. Vivo com medo de onde vais. Ligo e o número não dá mais. Sinto, não estás comigo ainda atrás. Talvez noutra vida ou destino ainda nos encontre. Outra vida ou destino ainda nos encontra. Talvez noutra vida ou destino ainda nos encontra. Talvez noutra vida ou destino ainda nos encontra. Outra vida.
vida, o destino ainda nos encontra.
Tempestade 2.1 na Rádio que nos liga. Chegou a tempo para o destino da Clarice. Então, onde é que viajamos hoje?
O passaporte desta viagem leva-nos até Guiné-Bissau. Portanto, hoje vou falar de um filme recente apresentado no Festival de Cannes este ano. Chama-se O Riso e a Faca, ou em francês, Le Rire et le Couteau. É realizado por Pedro Pinho, um dos grandes nomes do novo cinema português. Talvez o conheça com o filme A Fábrica de Nada. Ganhou o prémio, portanto, da crítica em Cannes há alguns anos. Mas desta vez, Pedro Pinho leva-nos bem mais longe, até a África Ocidental, onde o calor, o pó e o som das ruas misturam-se como uma música viva. O que significa estar aqui quando vimos de outro lugar? A pergunta repete-se várias vezes na boca de Sérgio, o protagonista do filme. Portanto, é um engenheiro ambiental português contratado por uma ONG para coordenar a construção de uma estrada na Guiné-Bissau entre o deserto e a floresta. Um projeto que parece simples, mas que aos poucos ela muito mais. No meio deste mundo, Sérgio conhece Diária e Gil, dois habitantes locais. Entre eles nasce uma relação um bocadinho íntima, mas desequilibrada. E quando descobre que um engenheiro italiano desapareceu misteriosamente na mesma missão, Sérgio começa a perceber que há segredos enterrados sobre a poeira daquela estrada. Não vou contar mais nada sobre a história, porque não quero dar nenhum spoiler, mas o que me fascinou neste filme é a mesma forma como Pedro Pinho mistura o real e o simbólico. Não é só uma história sobre uma estrada, é uma viagem sobre o poder, o passado e as feridas que ainda ligam Portugal à África. A câmera é neutra, observa, escuta e deixa o tempo a correr. E nós, espectadores, vamos sentindo o desconforto, a curiosidade, o medo e até uma certa ternura. Há momentos em que o silêncio fala mais do que as palavras. Vemos, por exemplo, Sérgio olhando para o horizonte como se procurasse algo que não sabe nomear. E talvez seja isso que o filme queira dizer. Que há estradas que ligam lugares, sim, mas há outras invisíveis que ligam consciências. Todo ao longo do filme, a fotografia é simplesmente magnífica. Tudo é filmado com uma beleza quase poética e a banda sonora mistura sons locais, risos, vozes e o rumor das máquinas, criando mesmo um contraste entre o humano e o industrial. No fundo, O Riso e a Faca é um espelho. Mostra-nos o que acontece quando duas culturas encontram-se e quando, no meio do progresso, alguém pergunta-se: para quem é realmente esta estrada? E digo-lhe já, há algo que profundamente lusófono neste filme. Não pela língua apenas, mas pela melancolia, pela consciência histórica e, sobretudo, pela saudade que atravessa o olhar português sobre o mundo. Se quiser viajar sem sair do sofá, sentir o calor da África e refletir sobre o papel de Portugal no mundo contemporâneo, veja este filme, porque há viagens que nos levam longe e outras que nos obrigam a olhar para dentro. E O Riso e a Faca é precisamente isso, uma estrada entre o passado e o presente, entre o riso e a ferida.
Obrigada, Clarice. Eu nunca tinha ouvido falar deste filme, vocês já tinham?
Não, também não.
Também não, mesmo. Mas agora já quero ver o filme.
E quem quer ir até Guiné-Bissau, além do filme?
Eu
também. Já estou a sentir o calor.
Tu querias ir, José, até Guiné-Bissau?
Sim, 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 sim. Eu gostava até de fazer um dia uma turnê. Já estamos a pensar nisso, logo vemos se a vida vai poder concretizar o sonho. Mas fazer uma turnê que vai atravessar todos os países lusófonos
seria incrível.
Sim.
Qual é o país lusófono que te dá mais vontade?
Não sei se vou dizer se é o que me dá mais vontade, mas acho que seria bastante fantástico ir atuar em Macau.
Macau. Ainda não apresentaste Macau?
Pois não, mas já estão a roubar as minhas perguntas. Eu ia fazer essa pergunta, mas não faz mal. Porquê Macau então?
Porque há pouco tempo descobri, graças às redes sociais, que hoje em dia, tal como eu desenvolvi o português aqui em França, lá em Macau eles têm o shintoguês.
É verdade.
E acho isso fantástico, essa capacidade humana que eles têm também lá, a não esquecer as raízes, mas conseguir viver. Agora, Macau tornou-se completamente chinês, mas não esquecem as raízes e, mesmo assim, conseguem, como eu digo no espetáculo Nós, França e Portugal, construir uma ponte e ficar com essa ponte para continuar a ligação com Portugal. E eu fartei-me também de rir, e eles brincam com isso muito bem. Mas nisso não é um riso, para, como eu tento também fazer, para fazer pouco. É riso com amor.
Exato.
E então eu escrevi, eles ainda não me responderam, mas seria bastante fantástico encontrá-los e, não sei, fazer um espetáculo onde tratamos desse assunto, eu com português e francês e eles com português e chinês, mandarim, plus precisément. Mandarim, plus precisément.
Estamos à espera disso então, e entretanto podem ver o riso e a faca para viajar até Guiné-Bissau, e se calhar algum dia apresentarás Macau, Clarice.
Sim,
é provável.
Sim, sim. Vou.
E fica connosco, daqui a 5 minutos estaremos mesmo em entrevista com o José Cruz, mesmo já começou um bocadito. Mas antes disso, proponho ouvir uma música que Clarice escolheu, que ouviu também todo o verão e da qual ninguém se farta. É Mussulo, de DJ Malvado, DJ AKM e Dodi.
Te contarem, eu quero te levar lá. Isso é uma tradição, dê-me a tua mão. Quando é festa do Mussulo, qualquer plano anulo. Esqueço os meus problemas, só quero adrenalina no Mussulo. Tô embora, tô embora. Aqui ninguém fica. Adrenalina no Mussulo. Tô embora, tô embora. Aqui ninguém fica. Thank you.
Stade de Chponton sur Radio Alpha. Vous arrivez à temps pour l'interview avec José Clouche. José, c'est la troisième fois du coup que tu viens sur Stade de Chponton. L'année dernière, tu nous parlais déjà de ton spectacle Portugal Voyage au centre du monde. Tu es encore en tournée pour un moment d'ailleurs avec ce spectacle. Ouais. Dans toute la France, on va en parler bien sûr avec Clarisse et Liliana. Mais aujourd'hui, on parlera aussi de comment tu es passé d'un travail plus solitaire à un travail collectif pour arriver plus loin dans ce que tu pouvais nous proposer.
C'est parti, José, est-ce que tu es prêt?
I'm ready.
Ma première question, c'est pourquoi le titre Portugal voyage au centre du monde?
Alors ce titre, il est né depuis très longtemps dans ma tête et il a été porté pour la première fois à l'écrit lorsque, un an après avoir fait la tournée J'irai jouer au Portugal chez vous, que j'ai fait à l'été août 2019. Quelques mois avant, je viens de rencontrer ma chérie. Quelques mois après, Talia allait arriver en septembre 2020. Et donc, en août, on n'a pas pu aller en vacances au Portugal parce qu'elle pouvait arriver, c'était le huitième mois, voilà. Et donc, moi, je m'étais donné le défi de raconter mes vacances pour Estavo com saudades.
Pois é, imagina.
Et tous les jours, j'ai écrit un chapitre sur le voyage que je faisais, que je comptais faire d'ailleurs avec ma chérie en voiture, là, cet été 2020, avant qu'on décide de... Non, on ne va pas le faire parce que si elle est sur le bord de l'autoroute, c'est pas cool, tu vois. Comment tu vas l'appeler? Esso au total. Donc, on est resté, tu vois. Et j'ai tenu mon pari, j'ai fait 31 jours, 31 chapitres, et j'ai appelé... Ce recueil de textes, qui était à la base une petite nouvelle finalement, un road trip, un carnet de voyage, Portugal, voyage au centre du monde. Déjà parce que je suis d'origine portugaise, les vacances allaient là-bas, et le centre du monde parce que y a un sous-titre, le centre du monde c'est là où tu es. Et nous, tous les mois d'août, on allait au Portugal et c'était magique. Mmh. Et du coup, le centre du monde, pour moi, devenait pendant un mois le petit village de Paramio, dans lequel, en fait, je passais que 15 jours. Après, il y avait aussi le Algarve, la terre de ma mère. Mais Paramio, c'était quelque chose de spécial. C'était, comme je dis après dans le spectacle, c'était les lettres de mon moulin, le château de ma mère, la gloire de mon père. Toi, tu parlais de Monterland tout à l'heure, non?
Montpassant.
Bon, moi, c'était Pagnol. Ouais. Moi, c'est Pagnol qui m'a fait rêver à l'école. Et si je devais citer, moi, une source d'inspiration pour ce spectacle, ce serait Marcel Pagnol. Et Portugal voyage au centre du monde, parce que autour de moi, quand je voyais tous ceux qui revenaient aussi à Paramio, mes cousins, les cousins de mes cousins, tout ça, tout le monde était super content, super fier. Et quand arrivait la fête du village, tout le monde avait bien un verre au dos. Aqui, au centre du monde.
C'est beau.
Et du coup, tu parles à la fois de situations très personnelles et universelles. Tu parles de la famille, des origines, des souvenirs d'enfance. Et comment tu fais pour essayer de rendre ces thèmes accessibles à tous, même à ceux qui connaissent pas la culture portugaise?
Comme je le raconte après en off, après le spectacle, une fois que j'ai écrit tout le texte du spectacle, le premier jet, j'ai repris tout le texte et j'ai enlevé Portugal. De partout, du titre jusqu'à la fin. J'ai repris tout le texte, j'ai enlevé Portugal, tout. Pour me dire si quelqu'un d'autre qui n'est pas portugais devait lire ce texte, est-ce qu'il va se sentir exclu ou inclus dedans? Donc j'ai réussi à prendre du recul aussi avec moi-même. Et c'est là où je me suis dit, cette dimension universelle que je voulais dès le départ du spectacle, parce que c'est ce que je dis en dans le spectacle, je suis né en France, j'ai rien contre la France, je mets pas le Portugal largement au-dessus, sur un piédestal par rapport à la France, c'est les deux, et du coup je voulais aussi raconter de pourquoi on revient, et du coup pourquoi on reste. Comme il y en a qui vont faire des études pendant 5 ans et qui reviennent au bout de 2 ans. Pour X raisons. Pour X raisons, cela ne regarde pas. Mais on revient. Et finalement, on est bien aussi là. Et pour avoir cette dimension-là, pour pouvoir toucher tout le monde, pour ne pas en faire un spectacle communautaire, parce que je savais très bien que sinon, il ne passerait pas les barrières des sélections pour les programmations culturelles théâtrales dans les villes, il fallait que même s'il y a Portugal dedans, que la dimension de, à l'intérieur soit universelle. Et par exemple, je me suis dit, bah tiens, si c'est quelqu'un qui rentre en Bretagne chez lui, parce qu'à Paris, quand tu fais un peu de recherche, l'historique, il est très important au niveau de la gare Montparnasse, c'est une population qui vient de Bretagne. Pourquoi il rentrait toujours en Bretagne? Et j'ai commencé à voir qu'il y avait plein de similitudes. Et donc, j'ai fait ce travail. Tiens, est-ce que eux, ça peut être la même chose? Est-ce que si je raconte cette anecdote, cette histoire, cette blague, est-ce que c'est parce que c'est moi, ça me fait rire et ça va toucher ma communauté, ou est-ce qu'il va y avoir cette dimension? Et donc voilà, il y a eu un travail de plusieurs semaines de réécriture sans le mot Portugal et sans les références au Portugal.
Mais est-ce que justement, tu as remarqué une différence entre le public franco-portugais et le public purement français pendant tes spectacles ou...
Eh ben, déjà, je prends juste l'exemple d'hier, par exemple, le Fémina, il y avait peut-être... Un cinquième de gens qui ne parlaient pas du tout portugais et peut-être deux cinquièmes qui ont au tout n'ont pas jamais été au Portugal, donc ce qui représente beaucoup, il y a 750 personnes. Il y a de plus en plus qui n'est pas d'origine lusophone ou qui n'a pas de lien avec la lusophonie, parce qu'hier il y avait aussi des Brésiliens. Il y avait quelques personnes de Guinée-Bissau qui étaient à Bordeaux. Voilà. Mais moi ce que je voulais, c'est que dès ce spectacle, même si je savais que dans un premier temps, de par son titre, c'est normal. Oui. Il allait d'abord attirer la communauté lusophone, que les gens après dedans, une fois qu'ils l'ont vu, disent ah mais en fait on aurait pu inviter nos amis français, ah on aurait pu dire à nos maris français ou à nos femmes ou à nos femmes françaises de venir avec nous. Et c'est ce qui se passe de plus en plus. Et je savais que le bouche à oreille se propagerait au travers des couples mixtes.
Ça c'est bien, en vrai.
Voire avec triple culture pour certains aussi.
Et du coup, José, quand je suis partie voir ton spectacle, je me suis particulièrement identifiée à certains moments et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et parfois, on se rend compte qu'il y a des messages beaucoup plus profonds dans ton spectacle, comme celui de la tolérance envers nos parents ou la transmission culturelle. Personnellement, ça arrivait quand tu as parlé justement du franc-tugais. Moi, c'est quelque chose qui m'influence beaucoup dans ma façon de parler. Alors, j'avoue que souvent, ça m'énerve quand mes parents l'utilisent. Et du coup, je vais te demander quelle importance ça a pour toi de transmettre ces messages. Et est-ce que c'était une envie dès le départ ou c'était venu naturellement en écrivant?
Dès le départ, c'était dans ma tête de montrer que ce dont on rit ou ce dont on a pu entendre beaucoup de blagues, on a tous entendu des blagues, etc., etc., qu'à l'origine, derrière tout cela, il y avait une raison qui est de l'ordre de l'inconscient, de la survie de l'humain. L'humain, où qu'il aille, il va toujours inconsciemment chercher un moyen de survivre, de s'en sortir. Et nos grands-parents, parents, c'est ce qu'ils ont fait au travers de cette langue. Ne connaissant pas la langue du pays où ils arrivaient, pour nous c'est le français, pour d'autres c'était l'allemand, pour ceux qui étaient en Allemagne, langue encore plus compliquée, l'anglais, pour ceux qui étaient en Angleterre. Et... du coup, cette langue, même si on en rit, et j'étais le premier à en rire aussi avec mes copains quand on était au collège et nos parents venaient nous supporter au foot, on jouait contre des clubs français, ils essayaient de parler en français pour montrer qu'ils étaient qu'ils étaient dans le coup. Et c'est non, papa, tais-toi, c'est pas comme ça qu'on dit. On rigolait beaucoup et tout. Mais au travers de tout ça, en fait, comme je dis dans le spectacle, sans en spoiler, c'est la meilleure preuve d'intégration écrite et orale que nos parents et grands-parents ont réussi à écrire. Et en fait, pour moi, le franc-tugais, même si ça nous fait rire, c'est avant tout un trait d'union entre Molière et Camões. Un pont culturel entre nos deux pays, nos deux cultures.
Et ce pont culturel, il revient souvent.
Ouais.
Pont est toujours présente. Donc, je trouve ça vraiment bien que tu aies fait ça. Et pour rester un peu dans cet esprit, quelle est la scène ou le passage qui te touche encore personnellement à chaque représentation?
Non, c'est la traversée de mon père. Puisque voilà, aussi, tout était lié quand j'ai écrit ce spectacle. Comme je dis aux gens, ça fait 10 ans que je travaille dessus. Et j'ai fini de l'écrire quand ma fille est née, Talia. Donc elle est née après en septembre. Quelques semaines après avoir écrit le premier jet que j'avais déjà appelé Portugal voyage au centre du monde et que je publiais chaque jour sur les réseaux sociaux avec une photo qui accompagnait pour illustrer le propos de chaque chapitre. Et quand on est rentré à la maison avec ma femme et Talia, à un moment elle est partie se reposer, ma femme, avec Talia. Puis mon père était venu nous aider et pour la première fois j'ai posé la question à mon père pour vraiment savoir, mais vraiment vraiment savoir comment c'était passé sa venue en France en 68.
Okay.
Voilà. Et le spectacle sans ce chapitre ne serait pas le spectacle qu'il est. Ce serait un one man show.
Oui.
Comme les deux premiers que j'ai pu faire et qui ont eu pas mal de succès et dont j'étais content. Mais pour ce troisième, je voulais Je veux vraiment aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profond dans les propos et dans les origines, dans les raisons de toutes ces histoires. Et du coup, quand je raconte ce moment, je sais que je vois le public et plein de gens qui sont bordés des larmes et d'autres qui... Parce que cette histoire de mon père aussi, je la raconte pas complètement parce qu'il y a une part qui n'appartient qu'à mon père et puis maintenant à moi parce que je la connais complètement aussi. Mais pareil, j'essaie de la traiter de façon à ce que ceux qui soient là et qui l'ont vécu, parce qu'il y en a vécu qui ont vécu au Salt, comme mon père, s'identifient, qu'ils aient peut-être la larme à l'œil, mais qu'on n'aille pas plus loin. Qu'on rattrape avec un rire.
Oui, c'est beau.
Et depuis quelques semaines, j'ai rajouté une nouvelle blague pour dédramatiser encore un peu plus. Il y a Carton, donc je vous la tue pas, mais je suis trop content. Je l'ai testé hier. Et voilà. Parce que l'idée, c'est toujours. Ouais. Parce que l'idée, c'est ça. C'est pas non plus pour s'apitoyer. Cette scène-là, pour s'apitoyer, cette scène est là pour montrer toute la force de cette fameuse expression que je donne dès le départ du spectacle. Sempre in frente. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, la vie continue et elle avance.
Et je me permets de rajouter, mais là tu dis que tu testes une nouvelle blague, et c'est vrai que pour ceux qui ont déjà vu le spectacle de José, en fait c'est toujours un peu différent. Il y a des passages qui sont les mêmes. Moi je pense qu'il y en a, je pourrais clairement les refaire quasiment, vu que j'ai été vu plusieurs fois sur ce spectacle. Mais à chaque fois que j'y vais, il y a quand même, il y a des trucs qui changent. Et je me dis, ah tiens, ça j'avais pas entendu ça.
Et ça, c'était une volonté aussi pour ce troisième spectacle. Dans quelques semaines, va sortir le livre. Dans quelques mois. On est dans la dernière ligne droite. Le livre fait 250 pages. Le spectacle fait 40 pages. Et aujourd'hui, j'ai testé sur scène, je suis capable de jouer 3 heures.
Waouh, incroyable.
Et tout marche, tout fonctionne.
Faut du cardio.
Ouais. Hier, j'ai battu le record. Hier, j'ai fait 2h15.
Waouh.
2h15 sans sortir de scène.
Waouh. Non, c'était top. Tu bois de l'eau quand même.
Le minimum possible pour ne pas rappeler aux gens, au public, que je suis fatigué ou quoi que ce soit.
Okay.
Faut pas qu'ils aient d'indices. Donc, je ne sors pas de scène. Même pour les saluts, c'est une volonté. Avant, je sortais de scène, je revenais, on saluait, etc. Là, je ne sors de scène que quand eux-mêmes doivent sortir. Okay. Pour faire, en fait, comme s'ils étaient vraiment avec moi dans la voiture. Dans la béchiche. Et du coup, l'objectif que je voulais avec ce spectacle, c'est que ce soit tout le temps la même histoire, ça y a aucun souci, mais qu'à chaque date, moi j'enlève de 3 à 5 chapitres. Et je les remplace par 3 à 5 autres chapitres. Et donc ce n'est jamais le même spectacle. Et aujourd'hui, par exemple, c'était là, quelques semaines, il y a une dame qui était venue à Les Pavillons sous bois et m'a dit c'est la cinquième fois que je viens, c'est la même histoire, mais j'ai encore vu des choses nouvelles.
Ouais, bah c'est ça.
Ça, c'est trop bien en vrai.
Mais du coup, si on veut tout le spectacle, en vrai, il faudra acheter le livre.
Ouais, c'est ça.
Il faudra acheter le livre. Et puis, on commence à réfléchir à un projet de faire dans une très, très, mais très, 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 très grande salle, 3 heures non-stop.
Oh là là.
Oh là là.
On commence.
On aura tout.
Voilà. De la faire à l'américaine. Mais ça, step by step.
Ouais, step by step. Et si je te demandais de décrire ton spectacle à quelqu'un qui connaît rien du tout au Portugal, tu lui dirais quoi en une phrase?
En une phrase?
Ou en plusieurs, mais...
La saudade, c'est tout ce qu'on a perdu... Nathan. En une phrase ou plusieurs? En une phrase? Je te dirais la phrase de le pitch du spectacle qu'on met sur Internet. Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de soleil et de rire. Y para matar saudades. Y... Nunca esquecer o azeite, as batatas, as salinas.
Bref, tout le tralala.
Si vous n'êtes pas portugais, n'oubliez pas de ramener votre remorque.
Clairement.
Vraiment. Et il y a une musique qu'on va écouter juste après qui clôture ton spectacle. C'est Minha Casinha de Chutes e Pontapés. Oui. Pourquoi cette musique?
Je sais pas, je trouve qu'elle est emblématique. Elle a plusieurs histoires, cette chanson. Cette chanson, je crois qu'elle est née, si je ne me trompe pas, dans les années... Il y a très longtemps, il y a 20 ans, c'est une chanson assez ancienne des Chutes e Pontapés, mais qui n'a jamais perdu son identification, qui a très vite été reprise par les supporters portugais comme hymne national. Et quand le Portugal est devenu champion d'Europe en 2016, c'est la chanson qui avait été choisie pour faire la fête, alors que normalement, la chanson officielle, c'était la chanson de Pedro Abrunhosa. Pedro Abrunhosa s'est fait doubler.
Ouais,
pour faire la fête.
Il s'est fait doubler, là.
Voilà. Et cette chanson, Minha Casinha, elle est à la fois joyeuse, elle parle aussi de saudade. Ah, saudades que eu já tinha. Et voilà. Avec ma canção que trata de saudade, fizemos a festa.
Ouais, ben.
Et du coup, elle est rapprochée énormément à l'Euro 2016 parce qu'on a fait la fête pendant 24 heures. Non, 48 heures. Non, un mois. On a fait la fête tout le temps avec cette chanson.
Ça fait 9 ans qu'il y avait plus la fête. Hein.
Et c'est aussi du coup ce qui me permet de raconter à toute la population française, que ce soit contre la France ou quoi que ce soit, quand nous on a gagné. Là, c'était beaucoup plus qu'une victoire sportive. C'est pas ça le match de foot qu'on venait de gagner. Pour toutes les populations émigrées portugaises, c'était aussi une revanche sur le destin. Enfin, ceux qui avaient du tout quitté et tout perdre, qui subissaient toutes les vannes tout le temps, pour une fois, étaient les gagnants. Et c'est cette chanson qui est associée à ça. Et cette chanson, à chaque fois que tu la passes dans un concert, j'ai été voir les choses, j'ai pont tapé, je crois, 2-3 fois. À chaque fois que cela passe, quand elle passe, même quand elle passe pas, les gens, ils sont en train de demander. Et une fois, j'étais à Braga, ils allaient pour partir. Et les mecs, tu sens qu'ils reviennent. Putain, quatrième rappel, allez, on vous l'a fait, on y va. Et voilà, cette chanson, elle a dépassé les cadres de sa publication originale, je trouve, pour devenir une des chansons hymne nationale du pauvre, pas forcément du pays, mais du pauvre, des gens simples, des gens qui aiment faire la fête, quelles que soient les générations. Il y a le solo guitare qui commence, et là tout le monde.
Ouais, tu sais.
Voilà.
C'est vrai. Trop bien.
Franchement, c'est vrai. Chanson. Mais vraiment, allez voir le spectacle de José Cruz. Je crois que c'est la seule conclusion, mais vous en faites pas.
Du coup, ça permet juste de dire que même les musiques ont été. Voilà. Il y a une réflexion sur. Sur. Parce qu'il y en a plein.
Bah, bien sûr.
Mais
Il y avait Pedro Munhoz aussi.
Alors que cette chanson était très bien.
On n'en doute pas. On adore Pedro Munhoz aussi, ouais, nous entend. Ouais. En tout cas, merci José d'avoir répondu à ces premières questions. On continue d'ici 5 minutes la conversation. On parlera du coup de l'évolution de ton spectacle, de comment on passe d'un projet solitaire à un travail d'équipe pour faire grandir le projet. Et tout de suite, on s'écoute. Aminia Casimir de Chouchou pour ta pêche.
C'est parti.
Vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Themestadt de Spontan. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours en interview avec le seul et l'unique José Cruz. Clarisse, je te laisse poser toutes tes questions.
Alors, José, tout à l'heure, tu as déjà répondu à ma question parce que tu vas trop vite. Mais on sait du coup comment est venue l'idée de ton spectacle. Mais j'aimerais bien savoir à quoi ressemblait ta première phase d'écriture. Est-ce que tu travaillais seul ou tu testais tes textes auprès d'amis ou de proches, ou tu as fait ça vraiment
seul?
Seul.
Oui, oui. Ouais. Moi, je suis. J'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire, en fait. Enfin, moi, j'ai une assez grande capacité à me retrouver seul et à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de moi et
te mettre dans ta petite bulle.
Ouais, moi, j'ai pas besoin d'acheter des lunettes pour te faire de la 3D. Moi, je fais de la 3D depuis que je suis tout petit. Autour de moi, partout, il y a des personnages qui arrivent, des dragons, des chevaliers, des épées, tout ça. Et la première phase, ça a été ça. J'écrivais, lorsque j'écrivais les premiers jets écrits, vraiment écrits. Ça faisait longtemps que j'écrivais dans ma tête. Mm-hmm. Quand je dis que j'écrivais dans ma tête, ça peut paraître un peu bizarre, mais J'écris vraiment dans ma tête, je me vois écrire et je travaille beaucoup comme ça. Et curieusement, j'apprends par cœur, parce qu'il se trouve que j'ai une mémoire visuelle. Donc en imaginant des choses que j'écris en train d'écrire, bah, en fait, je me rends compte que j'apprends. Je commence à apprendre par cœur, ouais. C'est assez, mais c'est vrai.
J'aimerais bien, moi aussi. Hein.
Ça aiderait pour les cours,
les partiels. Ouais.
J'ai une mémoire visuelle, j'arrive à apprendre, moi, par cœur en écrivant.
Incroyable.
Et j'ai remarqué que c'était valable en vrai ou quand je m'imagine en train d'écrire, devoir lire des mots et après je peux.
Bah, t'as choisi le bon métier.
Voilà.
Et t'aurais pu faire avocat sinon.
Aussi.
Et du coup, voilà, j'ai passé un long moment comme ça parce que ces fameux chapitres que j'écrivais, je laissais ma femme dormir qui était encore enceinte et moi je me levais à 3-4 heures du matin et j'avais 3 heures pour écrire un chapitre.
Wow.
Et je m'étais mis cette discipline de j'ai 3-4 heures pour écrire, publier, surtout les réseaux sociaux. Donc il y avait aussi une demi-heure, trois quarts d'heure de publication, de contrôle, etc. Mais il y avait 3 heures d'écriture, à fond, non-stop, comme un sportif. Voilà, tu fais tes gammes. T'as 3 heures à fond, bim bam boum, et j'ai fait ça 31 jours. Et voilà comment j'ai commencé tout seul. Après, c'est quelque chose aussi que j'ai changé pour ce troisième spectacle. Pour la première fois, je n'ai pas demandé l'avis des autres.
Ça, c'est bien, ouais. Parce que comme ça, tu restes dans ton idée et t'es pas influencé.
Petite histoire, mais deux spectacles précédents avaient déjà connu quand même des bons retours, un certain succès. Et je commençais à avoir des touches avec des producteurs et qui m'avaient demandé, dont, notamment un qui m'avait demandé de faire une version du 1 et du 2 pour prendre le meilleur du 1 et le meilleur du 2 et que ça, il était prêt à le produire.
Okay.
Quand t'es produit, ça change tout.
Ah bah, clairement.
Donc, moi, j'étais pas d'accord, parce que je savais que c'était pas ça qu'il fallait faire. Moi, je savais déjà qu'il fallait faire Portugal, Voyage au centre du monde. Mais entre le titre est trop long, et ceci et cela, bon, j'ai traîné des pieds, mais finalement, j'ai fait une version qui m'a pris, c'était à 3 ans et demi, 2 mois pour réécrire ce qu'on me demandait. Et ça ne prenait, enfin, je sentais, je l'ai fait à contre-cœur. Il m'a dit, écoute, c'est pas terrible, je vais pas pouvoir m'engager avec toi. Ok, merci beaucoup.
Et
donc, ça m'a reconfirmé qu'il fallait que je revienne encore une fois à moi-même tout seul. Et j'ai préparé ce spectacle sans que personne ne l'ait vu et sans même avoir fait un seul filage.
Waouh!
Et dès la première, il a marché.
Incroyable!
Il continue à marcher du feu de Dieu.
Il n'y a pas eu de filage, il n'y a pas eu d'avis, il n'y a pas eu de. Je n'ai voulu l'avis de personne. Au bout d'un moment aussi, il faut se faire confiance.
Mm-hmm.
Au bout d'un moment, il faut se boucher les oreilles et croire en soi. Ça marche pas. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus horrible que de se planter en avant en ayant essayé. Après avoir essayé de faire ce que les autres ont dit qu'il fallait faire, et rester toi avec des regrets de ce que tu pensais que tu aurais vraiment aimé faire. Et sur ce troisième spectacle-là, comme je savais que ça allait être mon dernier one-man show, je voulais, à la limite, s'il fallait se planter, que ce soit ma faute à moi et 100% point barre. Quoi.
Oui, t'as bien raison.
Et voilà, je trouve que c'est l'inverse.
Du coup, quand tu commences, t'es seul. Et
seul.
À quel moment d'autres personnes ont rejoint ton aventure? Comment tu les as choisies? Et quels sont leurs rôles aujourd'hui dans ton équipe?
Par le hasard, la vie, l'univers. Je fais confiance à la vie. J'ai toujours, ça rejoint le dicton de Sempre in Frente. Quand on avance, à un moment ou à un autre, on finit par rencontrer des gens. La vie nous fait rencontrer des gens qui vont nous accompagner. La toute première personne après à qui j'ai partagé ce projet, c'était une jeune louso descendante qui était sur les réseaux sociaux, qui suivait mon travail, qui adorait mes vidéos, et qui un jour m'a écrit, écoute, j'attends ce que tu fais, c'est génial, je suis très content. Bon, on est resté en contact, on a papoté, puis après un moment, moi aussi, je lui ai posé une question, et toi qui es suivie dans la vie, moi, je suis correctrice. Correctrice, c'est-à-dire comment on devient correctrice? On passe un petit concours, tout ça. Comment ça, on passe un petit concours? En fait, ça s'appelle le concours Voltaire. Et elle a juste gagné le concours Voltaire. Elle fait 0 faute. Elle est louso descendante. Je me dis, mais c'est incroyable. Ils sont, toi, tes parents, ils sont du côté de Reims, tout ça. Elle a commencé à me raconter son histoire. Et voilà, après, moi, je vais tout raconter. Ce que je voulais pour ce spectacle, comment je le voyais. Et c'était la première personne qui savait jusqu'où je veux l'emmener quand il va se terminer ce spectacle. Moi, je sais déjà où est-ce qu'il va se jouer. Et qu'est-ce qu'on va en faire?
C'est trop
et
bien.
Et elle sait tout depuis le début. Et je lui ai dit, c'est pas pour rien qu'on a commencé à papoter. Moi, à la base, cette histoire, c'est un livre et ça doit devenir un livre.
Ça aide d'avoir une.
Elle s'est rajoutée. Après, le spectacle a commencé à. Et donc, je lui envoyais tous mes textes. Après, je commençais à lui envoyer tous mes textes quand je faisais mes vidéos. Au fur et à mesure, elle me les corrigeait, me donnait son avis aussi. Mais je restais dans ma ligne quand même. Je conservais, c'est moi qui reste. Mettre à bord. Et ça, elle avait complètement compris. Elle a dit, de toute façon, si tu veux faire un livre qui ressortira du lot, faut que ce soit le tien, avec ses défauts, tes défauts qui seront les tiens et qui te caractériseront toi.
Mais sans faute.
Mais sans faute.
Et tous
mais
les sans... profs qui voilà. nous écoutent, ils doivent être contents.
Ouais, ouais. Ça, maman, c'est ce qu'elle m'a dit.
Je sais que tu m'écoutes. Donc.
Mais ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Par contre, José, il ne faut pas de faute d'orthographe.
Ouais.
Si tu n'as pas de faute d'orthographe...
Ah, c'est affreux, les fautes d'orthographe.
Ah, oui. Et elle, bah, c'est... quand elle a passé le concours, c'était juste de number one. Voilà. Et puis après, il y a l'équipe avec qui j'avais déjà travaillé sur les précédents spectacles. La compagnie Strapatella. Mais je leur ai demandé, voilà, par contre, donnez-moi carte blanche. Ils m'ont dit, OK, on te laisse carte blanche. Les premières fois, Laetitia Lebac était ma metteuse en scène. Là, je dis, ben voilà, là, je veux personne. Juste faites-moi confiance, aidez-moi à le produire au début pour le lancer, pour voir comment ça prend. Moi, je dis, OK. Donc ça, c'était des gens qui étaient déjà dans l'histoire. Après, j'ai commencé à le développer, à grandir, à décrocher des dates. J'ai demandé à une amie qui faisait de l'administratif à distance, comme j'avais de plus en plus de travail, si elle voulait bien m'aider. Elle m'a dit, ouais, mais OK, mais moi, j'y connais rien au milieu artistique. Je vais te présenter quelqu'un qui est aussi... qui a sa boîte d'administration et qui pourra peut-être t'aider. Et elle m'a dit, OK, je vais t'aider un peu, mais je pense qu'il te faut quelqu'un de bilingue qui va vraiment plus travailler pour toi. Et elle a recherché quelqu'un qui s'appelle Jennifer. Et Jennifer, j'avais reçu son devis et je dis, bon, c'est pas possible. Mais un jour, Jennifer, elle est venue voir, elle a forcé le destin, elle est venue voir le spectacle dans le 93, à je sais plus quelle ville, avec son mari. Et puis à la fin, elle a attendu, on a papoté, elle m'a dit, bon, bah, je suis Jennifer. Je voudrais bosser avec toi. J'adorais le spectacle. Bon, bah voilà. Là, du coup, j'étais obligé de dire oui. Parce que je savais en plus que de toute façon, j'avais besoin. Mais par contre, c'était quelqu'un qui était venu et qui avait montré qu'elle avait envie. Mm-hmm. Et ça, c'est important.
Oui, il faut avoir envie.
Au fur et à mesure de cette avancée, les seuls gens que j'ai laissé rentrer dans l'histoire, ce n'est que des gens qui avaient manifesté une vraie volonté d'y entrer. Pas par exemple pour gagner de l'argent ou pour ceci, cela, mais parce qu'ils croyaient au projet. Ils étaient séduits par le projet. Parce que moi-même, au début du projet, je ne gagnais pas d'argent. Mmh. Et il fallait que les énergies se mettent comme ça en place. Et puis après, bah, j'ai trouvé un producteur parce que j'ai pu continuer à avoir un rythme de création artistique en niveau vidéo conséquent parce que je déchargeais tout mon travail administratif vers Jennifer qui a pris ça en main. Jennifer, coup de pouce sur le web.
Qu'on embrasse, qui est déjà venue sur voilà. Tempête de Chouton, d'ailleurs.
Bisous à elle.
J'ai signé avec un producteur, Cœur de Scène Production, Tom et toute l'équipe. Hier, par exemple, j'étais accompagné pour aller jouer à Bordeaux de Soisig, qui était l'administratrice de tournée, qui est là pour que tout se passe bien, si moi, quoi que ce soit, elle est là. Un régisseur de tournée qui va faire le lien avec les régisseurs de la salle du théâtre. Moi, j'ai juste à me concentrer sur jouer, alors qu'il y a 2 ans, il fallait que je fasse tout. Voilà, au fur et à mesure, toutes ces énergies sont venues, se mettent en place. Et voilà comment un travail personnel, mais auquel tu crois... commence, naît et grandit avec des personnes qui vont finalement intégrer l'histoire, mais encore une fois, que si vraiment elles croient au projet.
Mmh. On a encore plein de questions, mais tu as choisi une deuxième musique qu'on va passer tout de suite au moins un petit peu, c'est Forza de ouais. Nelly Furtado. C'est tout de suite.
C'était long.
Flowing right on through your veins, and it's the feeling like you're always so glad you came, and it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is a power that you know you got it well. It is a fear inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum. Of your ever-flowing life, it is the wind beneath your feet.
Ça fait toujours du bien d'entendre cette musique, hein.
Ben oui.
Ça motive.
C'est ce que je disais, ça me motive. Même tout ce que tu dis depuis le début de l'interview, je me dis, bon, allez, prends ton courage à deux mains et fais des projets, parce que c'est vrai que bah, on n'a qu'une vie et parfois ouais, on ne se lance pas du tout.
Liliana, tu avais encore une question, je crois, sur le travail d'équipe, si je ne me trompe pas.
Ouais, en fait, je voulais savoir, du coup, ce que ça t'a appris sur le travail d'équipe et comment ça a changé ta façon de travailler.
Quand l'entreprise grandit, parce qu'à un moment, ça devient une entreprise, hein. Voilà, aujourd'hui, Portugal voyage au centre du monde. Il y a 3 ans, on va dire il y a 6-8 ans, il y a en 2020 quand je l'ai écrit, donc j'étais tout seul le matin dans mon salon de 3h à 6h du matin. C'est là que ça a commencé. Aujourd'hui, donc, bah, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui travaillent autour. Ni plus ni moins, c'est quasiment une entreprise, il faut gérer les énergies de tout le monde. Comme je suis en coproduction, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est patron à équivalent moi, c'est Tom, puisque c'est lui qui avance l'argent, c'est le rôle du producteur. On apprend à prendre du recul, et c'est pour ça que je pense que c'est bien avant, dans un premier temps, on parlait juste avant là en off, j'espère que j'ai pas été trop long donc quand je parlais, mais en même temps je voulais dire que faut pas avoir peur d'être seul. Et dans un premier temps, bah, ça fait partie de la vie de tout faire. Le fait de tout faire, tu touches un peu à tout et tu sais tout ce qu'il y a à faire. Et tu sais ce dans quoi tu es bon et ce dans quoi tu es moins bon. Et tu vas faire des erreurs et tu vas devenir aussi tolérant du coup quand c'est les autres qui vont reprendre tous ces dossiers ou ces parties du travail, d'un projet artistique qui grandit pour les orienter, les guider, leur laisser aussi le pouvoir à eux d'avoir leur force, d'exprimer leur énergie, leur capacité, compétences. Donc c'est ça que ça va apprendre au fur et à mesure, devenir un bon capitaine d'équipe, même si c'est toi qui au final est sur scène. Mm-hmm. Pour que tout se mette en place, tout se mette bien en place, va falloir aussi permettre à tout le monde de s'épanouir
clairement. Et comment ça se prépare une tournée? Est-ce que maintenant tu t'impliques dans la logistique et l'organisation, ou vu que t'as une équipe, tu fais entièrement confiance à tes équipes?
C'est ça aussi, ouais, voilà, un moment, au début, tu tiens les rênes, mm-hmm, beaucoup, et puis à un moment, tu dois faire confiance. Tu dois faire confiance, à l'équipe qui est là, de cœur de scène, qui vont s'occuper maintenant de trouver les dates, ou bien leur récupérer. Quand les gens m'envoient des messages et me demandent des propositions, jusqu'à il y a 3 ans, c'était moi qui gérais tout, mm-hmm, bah maintenant, la plupart du temps, je prends toujours le premier contact, parce que j'aime bien encore savoir où est-ce que je vais jouer, pour qui je vais jouer, tout ça. Et puis après, je transmets très vite à l'équipe de cœur de scène production, que j'embrasse, Soazig, Inès, tout le monde, Marie-Eva, Tom, tout le monde, et ils vont tout gérer, proposer, organiser. Et après, ils m'envoient ce qu'on appelle une feuille de route, voilà, tel jour, tu joueras là, papa, et je fais confiance. Parce qu'on peut plus tout gérer.
Oui, c'est ça.
Donc, apprendre aussi à faire confiance.
Comment t'as choisi les lieux et les salles de représentation pour ton spectacle?
Aujourd'hui, c'est plus moi qui l'ai choisi, donc on se concerte et par contre, on m'envoie tout plein de possibilités de salles. Et moi, par contre, comme je disais tout à l'heure, je savais le chemin qu'il allait faire ce spectacle. C'est curieux que ça puisse paraître. J'avais un gros pressentiment que ça allait fonctionner. Je saurais pas dire pourquoi. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui était en route et qui s'était mis en route le jour où j'ai commencé à écrire le premier chapitre. Parce que les retours aussi, quand j'ai écrit les premiers chapitres, ont été immédiats. Il y a quelque chose...
C'est la petite flamme.
Il y a eu quelque chose. Et c'est bizarre à dire, mais le premier spectacle, là, m'avait emmené au Festival de Montreux, tout ça. Je crois que j'étais le premier loseau descendant à aller au Festival de Montreux. Avec, je sais pas si vous connaissez Verino, Camini, tout plein de gens comme ça. Voilà, bah, il y a eu 2 soirées, les talents de demain, j'étais avec eux. Et donc, il avait déjà fait un parcours. Mais, Portugal voyage au centre du monde, dès le début, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, un ingrédient. Mm. Je saurais pas dire lequel, mais un ingrédient que j'avais réussi à incorporer, que les autres n'avaient pas. Et du coup, bah, aujourd'hui, moi, j'ai dit, bah, voilà, par exemple, je veux Bobino. J'ai dit à Tom, cœur de scène, il faut que vous caliez Bobino. Ça, c'est important. Parce que Bobino, à côté, il y avait, les gens le savent pas, oublié, mais à côté, il y avait la première boîte de nos parents. Où les loseaux descendants se rencontraient, allaient danser et choper.
Elle s'appelait comment, la boîte?
J'ai oublié le nom, j'avais fait des recherches, j'avais commencé à préparer une vidéo, mais je ne l'ai pas finie. Mais voilà, elle était juste à côté du théâtre Bobino. Bobino, rue de la Gaîté, pour nos parents, pour nos grands-parents, c'était un lieu de rencontre. Et j'ai voulu associer tout plein de théâtres comme ça avec des symboliques.
Aujourd'hui, c'est une boîte brésilienne.
C'est ça.
Il me semble.
Oui, il me semble aussi.
Bon, pas que je sois connaisseuse, mais...
mais voilà, je voulais qu'il y ait un lien avec tout ça. J'étais au Théâtre du Gouvernail, démarrer ce spectacle le 16 septembre pendant trois mois, parce que je savais que je prenais une nouvelle direction. J'étais tout seul sur mon bateau. Et quand j'ai vu Théâtre du Gouvernail, c'est ce théâtre-là qu'il me faut.
Trop bien.
Je fais très confiance au symbolique.
Ouais, je
travaille
ça,
aussi beaucoup dessus. Par exemple, j'ai fait des vidéos là sur les baskets Nike. Mm-hmm. Pas pour mettre en avant Nike, mais à cause de tout ce que raconte la symbolique.
Okay.
Et
Flora,
quand on regarde,
on a parlé aussi,
ouais, quand on regarde tout ça, bah, on oublie, on ne sait pas. Mais en fait, la couleur, un dessin, un mot a une symbolique, a une force, a une énergie. Et j'essaie d'associer le maximum possible le spectacle, tout plein de choses comme ça, pour que ça raconte quelque chose à chaque fois.
C'est pour ça que ça marche.
J'espère, je souhaite, je sais pas, comme je te dis, après il y a une part d'ingrédients qu'on ne maîtrise pas.
Et du coup, quels ont été les défis que tu as rencontrés pendant toute ton aventure?
Le plus grand défi dans un premier temps, ça a été ça. Faire fi des commentaires et des mots des gens, parce que tu rencontres après tout le temps des gens qui vont te dire tu devrais plutôt faire ça ou faire ça comme ça ou comme c'est. Et ça, pendant six mois, j'ai demandé l'avis de personne. Et dès que quelqu'un me commençait à me dire ah, tu devrais faire. Hop, non. Non, me dites pas ce que je dois faire. Encore une fois, pour essayer de trouver ma propre vérité. Je sais pas si c'est une image, mais ça, c'était la première chose, parce qu'on rencontre toujours des gens qui nous disent ce qu'il faut faire, et c'est très bien, la plupart du temps, c'est bienveillant, ça part d'une bonne intention. Mais après, c'est aussi une projection que les gens font. Et encore une fois, on revient à la même chose, tu dois faire ce que tu as vraiment envie de faire au plus profond de toi-même. Parce que c'est pour ça, les auteurs, souvent, ils s'enferment et ils écrivent dans leur coin pour faire ce qu'eux ont vraiment au fond d'eux. Et pas ce qu'on leur dit de faire. Ça a été le premier défi. Après, le deuxième défi, ça a été au fur et à mesure, dire au théâtre que, écoutez, ce spectacle va marcher. Faites-moi confiance. J'ai pas d'argent, je peux pas louer un super théâtre, mais faites-moi confiance, vous n'allez pas le regretter. Et ça, c'est dur aussi, parce que tout le monde a le même discours quand on arrive avec un spectacle. Et il faut réussir à dire aux gens, ben non, mais moi, c'est vrai. En français et en portugais, des fois.
C'est ça.
Donc, il faut avoir une force de conviction, si c'est un plein. Donc, ça a été le deuxième défi. Puis, bon, j'ai eu de la chance, comme les gens avaient déjà vu le premier ou le deuxième spectacle, j'avais quand même une part de confiance qui était accordée. Et puis, le troisième, ça a été de se refaire confiance. Il y a eu un moment où on est passé des salles de 100, 200, 300 places aux salles de 600, 700, 800 places. Et là, il y a un truc qui se présente, qu'on appelle en psychologie, c'est le syndrome de l'imposteur.
Oui.
C'est-à-dire, est-ce que j'ai ma place, est-ce que je mérite d'être là, et est-ce que moi je dois être là, quand je sais que tous mes potes humoristes, il y en a 99% qui sont en train de galérer encore dans le théâtre. Moi j'étais il y a quelques mois, un théâtre de 49 places, 50 places, 80, 100 places, et où là c'est plus ou moins facile d'obtenir un créneau, mais arriver au théâtre de 5, 6, 700, 100 places, celui où j'étais hier soir, la directrice reçoit 4000 demandes par an. On est... pour la première fois, malgré tout, tu vois, hier, avant d'entrer sur ça, je me dis, il y a un moment, c'est beau, c'est grand, il y a des dorures partout, il est classé patrimoine historique, qu'est-ce que...
Ouais.
Eh ben, oui. Donc ça, il y a aussi un travail, un défi de se refaire confiance, de se remotiver, de se donner à soi-même la légitimité, le droit d'être là.
En tout cas, on a hâte de voir la suite
ouais.
de ton parcours.
Bah, déjà, il y aura le livre, tu nous tiendras au courant quand ça sort. En tout cas, merci beaucoup.
Barbara. Que j'embrasse.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu restes avec nous. On est en direct jusqu'à 16h. Tu nous tiendras au courant des futurs projets. En attendant, on rappelle que tu es en tournée partout, qu'il faut aller prendre ses places, te suivre sur les réseaux sociaux, José Clouge comédien. Et puis, tout ce que tu as, tu le mérites. Tu fais un très bon travail et ton équipe aussi. Donc, bravo à vous tous. Restez avec nous, nous sommes avec vous du coup jusqu'à 16h, je vous ai resté avec nous, ne vous en faites pas, d'ici 5 minutes ce sera le moment de l'actu sport avec Clarisse, et en attendant on va écouter la dernière musique que tu as choisie, Meu Amor Dorme Bem de Squatri Maia.
Meu amor dorme bem. Pai vai só ali salvar o mundo e já vem. Fecha os olhos, dorme bem, que que o pai só sai daqui com autorização da mãe.
Quando a noite te envolver e as estrelas se arranjarem para te ver, o pai fica uns minutos, mas apenas a olhar, e puxa os lençóis da cama para te aconchegar. Meu amor, dorme bem, que o pai vai só ali salvar o mundo e já vem. Fecha os olhos, dorme bem, que o pai só sai daqui com autorização da mãe.
Tempestade 2.1 sur Radio Alpha, c'est le moment de l'actu sport. Déjà, est-ce que José, tu suis le sport, toi?
Ah, j'adore le sport. Alors... Moi, je vais être footballeur quand j'étais petit.
Écoute, on va pas parler que de football aujourd'hui, on va voir si Clarisse va t'apprendre des choses.
J'espère. Allez, on démarre avec notre équipe nationale. Le Portugal a été tenu en échec 2-2 à domicile face à la Hongrie lors d'un match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Cristiano Ronaldo a encore brillé en inscrivant un doublé, portant son total à 40 buts en éliminatoire, un record historique. Mais attention, Dominique, désolé, je vais écorcher un peu le nom de famille, Szoboszlai a égalisé en toute fin de match, repoussant la qualification des Portugais à novembre. Du côté du championnat, le Sporting retrouve le sourire après sa victoire 3-2 contre Passos de Ferreira en Coupe du Portugal. Je vois qu'ici, il y a des Sportingistes, je me sens un peu moins seule.
Mais contre l'OM aussi.
Exactement. Justement, les Lions préparent maintenant leur affrontement en Ligue des Champions contre l'Olympique de Marseille avec le retour de plusieurs joueurs clés, dont Ousmane Diomandé. En handball féminin, le Costa del Sol Malaga a fait sensation en Europe. Le club espagnol a dominé le HB Dudelange 37-11 en coupe EHF, se qualifiant pour la troisième ronde avec un score cumulé de 79-25. Et nos joueuses portugaises comme Joana Rescinde ont largement contribué à cette performance. Côté jeune talent, la Lisbon Football Youth Cup approche à grands pas du 25 au 27 octobre. Le complexe sportif de l'Université de Lisbonne accueillera des équipes de clubs d'élite et amateurs du monde entier. De quoi découvrir les stars de demain. Sur une note un peu moins traditionnelle, le Portugal brille aussi en tennis de table. Nos pongistes ont remporté 6 médailles lors des récents Jeux mondiaux, confirmant la montée en puissance du pays dans cette discipline. Nos Portugais font rayonner le roller sur la scène mondiale. Julie, je sais que ça va te plaire.
Évidemment, j'ai tout suivi.
Diogo Craveiro et João Pedro Cruz ont remporté une superbe médaille de bronze, tandis que Rita Eisinger s'est illustrée en devenant championne du monde. Et pour finir en beauté, que dire de Madeleine Coste, sacrée championne du monde de patinage artistique, libre dans la catégorie senior à Pékin, à seulement 17 ans. Une performance exceptionnelle qui marquera l'histoire du sport portugais.
Mais tu sais qu'en plus, elle est de Madeleine.
Mais
c'est
oui.
C'est vraiment la Ronaldo du patinage artistique.
C'est impressionnant.
Vraiment.
Je vais passer sur les réseaux, ouais.
Elle est incroyable. Et en plus, elle est hyper gentille. Enfin, sur les réseaux, elle répond à tout le monde.
Adorable.
Elle reposte tout le monde. Elle est super gentille.
À seulement 17 ans, donc cette fille va avoir une carrière exceptionnelle.
Et il y a sa sœur aussi qui arrive derrière. Vous allez voir, sa sœur, ça va être quelque chose aussi. Mais leur mère est patineuse.
Et c'est de génération en génération.
Vraiment. Nous, dans le monde du patin, en tout cas, je peux vous dire que c'est un modèle. Et moi, j'en profite quand même pour embrasser, s'ils m'écoutent, les gens de mon club, Uniroller, c'est des Français. Mais bon, on les aime quand même. Et il y a Lola Coquet qui est à Pékin pour représenter du coup la France. Donc, gros bisous à elle.
Gros bisous à toi.
Elle passe demain matin.
Incroyable. Et n'oubliez pas de voter pour Helena Chevrier d'Acosta sur l'Insta Fadou Portugal pour élire l'athlète féminine d'aviron de l'année. Donc restez connectés pour suivre toutes les actus sportives et ne rien manquer des exploits de nos athlètes.
Merci Clarisse. Alors je vous ai appris des trucs ?
Oui, parce que j'avais vu passer l'histoire de la jeune patineuse de 17 ans. Comme voilà, j'étais en tournée, j'ai pas eu le temps complètement de chercher, mais c'est donc elle est championne.
Du monde.
Championne.
En senior.
Fou,
c'est pas la première fois qu'elle est championne du monde, mais c'est la première fois dans la catégorie senior.
Oui, c'est ça, parce qu'il me semblait déjà avoir.
Elle était en junior l'année dernière.
Ont du talent.
Donc, elle a enchaîné titre de champion du monde junior. Maintenant, titre de champion du monde senior. Donc, au JO.
Bah, il y a peu de patinage artistique sur roller au JO.
Mais il devrait.
Mais bien sûr qu'il devrait. Je suis complètement. Il y a des gens du comité qui nous écoutent. Rajoutez-moi ce sport, s'il vous plaît. Je veux y être aussi.
Ah, il n'y a pas de.
Et ouais. Que sur glace, mais aux Jeux Olympiques d'hiver. Mais oui, on va faire ça. En tout cas, merci beaucoup Clarisse. On change de domaine juste après. On va parler de l'art dans Arte et Onde avec Laura. Mais tout de suite, on s'écoute le dernier single de Vendredi sur Mer. C'est sorti hier, ça s'appelle « Si t'étais là ».
J'attends que tu reviennes, tu me redis sur scène, et pourtant je...
Está a ouvir o Tempo Estado 2.1 na Rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para Arte em Ondas. Então, Laura, ainda vais falar um pouco da TN, da qual já falamos com o José há pouco.
Sim, exatamente. Há duas semanas já falei da nova TN Lisboa, nesta rúbrica, e da enorme campanha que teve muito sucesso e reuniu vários artistas. E estou a ver que não tens as TNs aos pés.
Não, porque nós já realizava, consegui ter um par. Não, consegui ter um par, mas acho que também é um c'est un objet d'art aussi. C'est à la fois une paire de chaussures. Il faut porter, surtout vu le prix que c'est, mais à la fois c'est aussi un objet d'art. C'est comme un tableau, bah, une fois, des fois, par. Je trouve que. Voilà, moi je considère vraiment cette paire de baskets comme un objet d'art avec tout ce que ça raconte. Donc je n'ai pas spécialement les abîmer.
Tu vas les encadrer.
Garde-les.
Je
vais
pas les encadrer, je vais les laisser dans la boîte parce que la boîte fait partie de l'histoire.
Et après, tu les revendras à 1000 balles.
Voilà.
Non, j'ai vu, elles sont vendues sur je sais plus quel site à 350. Mais c'est bon, Nike a ressorti un stock, donc ça va faire chuter les prix et on va redevenir raisonnable. C'est une perte. Déjà, c'est cher comme ça.
Oui. C'est vrai. E foi só depois de fazer essa rubrica que um artista que gosto muito publicou a sua própria interpretação da TN. No topo de um prédio, uma TN Lisboa idêntica ao modelo da Nike, pintada em grande escala pelo artista. E esse artista é o Ozzy, que conheci na periferia de Lisboa quando estudei na capital. Aliás, é engraçado porque já tínhamos falado da Nike TN anos antes.
E Nike TN é um modelo que transpira rua, sabes?
Sim.
Tipo, Nike TN é rua mesmo, 100%, tipo. Tipo, há bué de nomes para eles, estás a ver? Há o Tubarão, há os Cobra, há os. Estás a perceber? Tipo, há bué de nomes e é tudo nomes tipo. Agressivos, estás a ver? Nomes tipo. Sim. Estás a entender? E eu acho tipo, que isso é um. É uma cena que vem bué da rua, estás a ver? Tipo, tudo isso que está aí vem bué da rua. Vem bué. Como é que eu te posso explicar? Vem bué da tua atitude, sabes? Tipo, eu acho que rua tem a ver com atitude.
E não é por acaso que este tema já é um tema de conversa há 2 anos, quando conheci o Ozzy. Então é um artista que cresceu nos arredores de Lisboa e começou muito cedo a explorar o mundo artístico de uma maneira pouco convencional. Já pode imaginar o que é, como sempre nesta rúbrica, o graffiti. Então o Ozzy pintava nas ruas, nas paredes, como muita gente, só que continuou a desenvolver um mundo mesmo seu e é assim que nasceu o artista. Ozzy cresceu nos subúrbios de Lisboa e sempre inspirou-se neles no seu trabalho. Os blocos, os prédios, as atitudes, os códigos próprios à rua fazem parte da arte. Mas antes de construir este universo, começou com a tatuagem. As tatuagens que faz também têm as mesmas inspirações, talvez um pouco mais gráficas, com referências asiáticas de tipo animes. Aos poucos começou a produzir telas, esculturas e até tapetes, sempre criando à mão, com materiais simples como tesoura, cola, tecidos, mas o ponto de partida sempre foi a rua. E o que significa, afinal, a rua? O grafite não era apenas um meio de expressão, era uma escola, uma cultura, uma forma de ver a vida, e a rua não é só um lugar físico onde podemos ver arte, também é uma cultura, uma maneira de viver, de pensar, e isso nota-se no trabalho do Ozzy. Porque produzir arte sem sentido nunca foi a sua intenção. Tivemos a oportunidade de falar várias vezes sobre o mercado da arte, o sucesso, a mensagem que a arte deve ou não deve transmitir, e é uma coisa que gostei muito com ele, tanto na arte como na pessoa, é a sinceridade. A sua arte é crua, direta, não é feita para ser aceite, mas para impor uma visão, a sua. Mas ao mesmo tempo não é fechada, pelo contrário, é uma mistura de todas as viagens, os encontros, as experiências que viveu e que o levaram até agora. Ultimamente começou a produzir obras um pouco diferentes, telas sobretudo. Visualmente utiliza uma paleta inspirada em câmaras térmicas ou infravermelhas, cores intensas como azul, vermelho, amarelo e verde, traduzem calor, tensão e energia. Numa das obras, Block Stories, o efeito de visão térmica parece tornar visível o invisível, o calor dos corpos, a tensão emocional e a violência latente no espaço público. A obra apresenta cenas de confrontos entre a polícia e civis, organizadas em 2 vinhetas sobrepostas, lembrando uma história em quadrinhos ou um fotograma cinematográfico, o tema da polícia e do confronto, as questões de poder, controle e resistência. Ozzy explora, através da sua arte urbana, o interior e os desafios do dia-a-dia. Obras como Block Racer convidam o público a refletir sobre a necessidade de persistir, avançar sem olhar para trás ou para os lados e mostrar ao mundo o que se é capaz, mantendo sempre a autenticidade consigo mesmo. Há uma atenção especial à força, à resistência, mas também à aceitação do fluxo natural da vida. Tudo está sob o nosso controle e a sabedoria pode residir em confiar nas marés do tempo, sentindo que nos conduzem a um lugar certo. Seu trabalho combina tensão entre esforço, autoconhecimento e realidade urbana, transformando emoções e experiências coletivas em imagens poderosas e contemporâneas. É essa tensão entre luta e aceitação, individualidade e coletivo, crueza e beleza, que torna a sua arte tão contemporânea e impactante. A arte do Ozzy é como a própria cidade que o inspirou, viva, intensa e cheia de camadas. Cada escultura, cada tela, cada cor escolhida revela não só o seu olhar, mas também a energia da rua, das pessoas, dos encontros e dos desafios que moldam quem somos. E talvez seja isso que nos toca, a capacidade de transformar a experiência cotidiana em algo que vemos e sentimos de forma direta, sem filtros, mas com sinceridade. Ao olhar para o trabalho do Ozzy, percebemos que a rua não é só um espaço físico, é uma narrativa viva, uma escolha de vida, uma paleta de emoções. E é nesse equilíbrio delicado entre força e sensibilidade, entre resistência e aceitação, que a sua arte encontra a sua verdadeira potência.
Obrigada, Laura. José, tu conhecias o trabalho desse artista?
Não, mas vi passar nas redes sociais o trabalho que ele fez sobre a Nike TN. Adorei. E agora descobri, tenho ainda mais vontade de descobrir o trabalho dele. É incrível, fantástico. Très beau papier.
Muito poético. Obrigada.
Como sempre não. Com a Laura mesmo. Vamos todos poder descobrir o trabalho do Ozzy nas redes sociais do Tempestade 2.1 desde amanhã. E voltamos daqui em 5 minutos para os Bom Plom. Mas primeiro, Pedro Mafama está de volta. Publicou ontem Minotauro em colaboração com Odari.
Tô perdido na cidade, sinfonia de sirenes pelo ar. Luzes passam a gritar, até que um dia quizá nos venham buscar. Venham buscar.
Labirintos na cidade, minotauros em toda parte. Para onde vão? Para onde vão? Para onde vão?
Uber Black a passar por templos de ferro e aço. Cada dia o tempo arranca-me um pedaço. Vou pedir à lua só mais um abraço.
1% no meu celular, sendo um cigarro pra disfarçar. Lobos uivando a eclipse lunar.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Themestadt de Chanton touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Alors tout d'abord, vous le savez, le gala de remise de prix de Cap Magellan est de retour, il aura lieu le 15 novembre à Jussieu, à la Sorbonne. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez jusqu'à la fin du mois pour vous inscrire sur le lien qui est disponible sur le site de Cap Magellan. Je crois que tout le monde ici, sauf notre cher José, y sera, parce que José joue ce jour-là, donc il faut choisir entre Cap Magellan et José ce jour-là, mais bon, les deux valent le coup. Voilà. Pour les événements à venir, donc ce soir, si vous êtes dans les alentours de Champigny, prenez vos places pour aller voir le M Show, le show de Miguel Santos. C'est un chanteur qui est déjà passé par Themestadt de Chanton. Vous pourrez y retrouver de nombreux artistes et faire la fête toute la nuit à partir de 22h. Lionel Cecilio est de retour à Paris, au théâtre La Huchette. Il joue les mardis, jeudi, vendredi, samedi, 21h avec son spectacle La Fleur au Fusil jusqu'au 18 novembre. Le 8 novembre, c'est la pièce Saudade ici et là-bas avec Danninger et Isabelle Ribeiro qui se présentera à Brie-sur-Marne. Eunice DM sera au Salon du Livre d'Asnières-sur-Seine les 15 et 16 novembre après-midi. N'hésitez pas à passer la voir. Elle sera en dédicace pour son nouveau roman jeunesse Mystère aux cuves de Sassenage. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Themestadt de Chanton et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Clarisse, je crois que tu as aussi un bon plan pour nous.
Exactement, j'ai un petit bon plan à vous partager. Donc avec ma famille, on a une conciergerie qui s'appelle Prime BNB qui s'occupe des check-ins et des check-out. Et comme c'est actuellement les vacances scolaires et que les Portugais ont l'habitude aussi de faire 6 mois, 6 mois, si vous voulez mettre en location votre maison, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux primebnb.officiel sur Instagram ou par téléphone au 07 84 70 51 48.
Merci beaucoup Clarisse. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci José d'avoir été avec nous.
Obrigado pelo convite. Merci pour votre invitation. Je tiens à vous remercier. Vous êtes partenaire du spectacle tout au long de cette saison.
Oui.
Obrigado Themestadt. Obrigado aos cadernos de Julie. Obrigado Cap Magellan. Obrigado Radio Alpha. Obrigado à Caixa Geral de Depósitos. Tous ceux qui soutiennent le spectacle. Parce que, ben voilà, pareil, pour aller vite, c'est bien d'être seul, mais pour aller loin, c'est mieux d'être à plusieurs. Et ben, c'est en train de se confirmer. Et merci pour toute l'énergie que vous me transmettez.
Effectivement, on va très loin ensemble et on est très content d'être partenaire de ce spectacle qui est dispo dans toute la France. Tu joues vraiment partout. Est-ce qu'il y a, allez, une ou deux dates que tu veux vraiment cibler là, où les gens, il faut qu'ils prennent leur billet?
Deux dates. Bobino, je reviens pour la deuxième fois, c'est un truc de dingue. Donc l'année dernière, on a rempli en 6 mois, 900 places. Cette année, en 2 mois, on est déjà 450. Le spectacle est le 6 février et les places partent très vite. Et dès qu'on sera arrivé à 900 places, bah, dépêchez-vous, je pourrais annoncer une très 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 grande nouvelle. Et après, bah, la deuxième date. Cette année, la tournée va se terminer à Lyon le 31 mai dans une autre salle qui m'a toujours fait rêver. C'est la Bourse du Travail, là où passe, là où rêve de passer tous les humoristes, tous les chanteurs. Elle fait 2000 petites places.
Ouf, c'est pas mal.
Voilà, c'est 2000 places et on est déjà quasiment 300.
Waouh.
Et donc ben voilà.
Remplissez-moi voilà. Ces deux dates pour qu'on puisse avoir notre
et
info
après,
surprise.
Toutes les villes aussi autour, mais ces deux dates-là, voilà. Hier, la première grande étape, on avait 3 grandes étapes cette année. La première, c'était hier, 750 personnes au Fémina à Bordeaux, c'est juste incroyable. La deuxième, ce sera un deuxième Bobino, voilà. Et la troisième, Bobino le 6 février. Et le 31 mai, la Bourse du Travail Lyon, 2000 places.
Restez connectés, on aura peut-être aussi quelques places à vous faire gagner. Mais pour ceux qui veulent vraiment leur place, il faut vraiment les prendre.
Ouais, ça vaut la
peine. Il faut les prendre. On fait un petit bisou quand même à Jennifer.
Oui,
je sais qu'elle
Jennifer.
Nous écoute en plus. Et puis à toute ton équipe qui font du super travail. Vraiment, vraiment merci
Barbara,
à eux et bravo.
Tout le monde. Rémi, Laetitia Lebac, Patricia, tout le monde. Voilà,
et on n'oublie pas de te suivre sur tes réseaux sociaux, José Clouche, comédien, partout.
Yes, muito obrigado.
Merci à toi.
Et on a aussi Jenny qui veut faire des petits bisous à sa famille, n'est-ce pas?
Bah, comme tous les grands artistes, entre guillemets, je fais un bisou à mes parents qui t'écoutent tous les samedis en travaillant à la maison. Donc ils se reconnaîtront très vite, je pense. Et merci à toi et merci à vous pour cette expérience unique.
Ouais, ben tu es la bienvenue quand tu veux, hein. Tu fais partie de la famille Cap Magellan comme nous, donc tous ceux qui sont de Cap Magellan, venez quand vous voulez. Vous pourrez pas forcément parler. Là, ça va que c'est la famille José, mais en tout cas, ça nous fait toujours plaisir de vous voir et de vous avoir ici. On fait des gros bisous à ta famille aussi, à ta femme et tes enfants.
Parce que sans eux, il y aura pas ce spectacle.
C'est vrai.
Et puis, bah, sans eux, il y aura pas toutes ces belles histoires.
Vraiment. Exactement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. Je vous laisse avec la dernière musique de Tyla, ça s'appelle Chanel, c'est sorti hier. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine à tous.
Bonne semaine. Bonne semaine.
Turned out. What's my mood? Try me, come find out. One more time. Stop trying to read my mind. I'm not her and she's not me and you're not mine. Time for me. No, yeah, with me. Baby, I'm a D&D. Please don't bother me. Hey, be no VV. Flawless diamond piece. Yeah, you gotta make me freeze. Reasons that you gotta. Baby, soft me, yeah, you an upgrade me. Waistline crazy, man, don't chase me. Say you won't see me, where you gon' take me?
Put in Chanel. Put in Chanel.
Hey, say love me, you put me Chanel. Say love me, put me Chanel. Walking, standing tall, but still fall for me. You come in with baggage, it's costing me. Still don't have it all, but give it all to me. That you got it.
Put in Chanel. Put in Chanel.
They say love me, you ain't put me Chanel. They say love me, you ain't put me Chanel. They say love me, you ain't put me Chanel. They say love me, you ain't put me Chanel. They say love me, you ain't put me Chanel. Say love me, put me Chanel.
I'm a big dog baby and a dog baby. Self me, yeah, you an upgrade me. Waistline crazy, man, don't chase me. Say you won't see me, where you gon' take me?